Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre mission quotidienne La Voix de l'Indonésie en langue française. Je m'appelle Yubi Suryanto et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, samedi, le 12 août 2017. Il est 3h du matin du temps direct à maintenant. Chers auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par le journal, suivi la revue de presse, aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point. Et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel et suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission la rubrique distraction, c'est-à-dire le magazine musical indonésienne. Chers auditeurs de TIS, voici le journal aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Chers auditeurs de TIS du monde entier, voici le journal aujourd'hui. En titre, le ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie et de la Malaisie discute du développement des coopérations. Et puis l'Indonésie augmente sa coopération avec Singapour. Voici le bulletin complet. Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, a rencontré son homologue de la Malaisie, Dato Sri Hanifa, dans la 15e commission conjointe pour la coopération bilatérale ou JCBC au ministère des Affaires étrangères à Jakarta vendredi. Dans la conférence de presse conjointe, le ministre Retno Marsudi a expliqué que cette année était très importante pour l'Indonésie et la Malaisie, car cette année est le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays et le 5e anniversaire de l'ASEAN où la Malaisie et l'Indonésie étaient deux des 5 pays fondateurs de l'ASEAN. La réunion de JCBC a été commencée jeudi avec une réunion de hauts fonctionnaires. Lors de la réunion, beaucoup de questions ont été discutées et cela reflète les relations dynamiques entre les deux pays. Lors de la réunion ministérielle étrangère, ils ont parlé du commerce et de l'investissement, des questions frontalières, de la coopération au travail, de l'éducation et de la traite des êtres humains.
Sebagaimana diketahui, Malaysia merupakan salah satu mitra penting Indonesia.
Comme nous le savons, la Malaisie est l'un des principaux partenaires de l'Indonésie dans le commerce et l'investissement. En 2016, comme par exemple, les échanges entre les deux pays atteignaient presque 15 milliards de dollars américains. La Malaisie est également l'un des 10 plus grands investisseurs en Indonésie d'une valeur de 1,1 milliard de dollars américains. Selon le ministre Retno Marsudi, les deux ministres des Affaires étrangères ont également discuté de la question de la frontière. L'Indonésie et la Malaisie ont des frontières maritimes et terrestres. Pour la frontière maritime, depuis la dernière commission conjointe pour la coopération bilatérale ou JCBC, l'Indonésie a tenu 9 réunions. Les deux parties sont convenues de la frontière provisoire de la mer territoriale ou du PTSB dans la mer de Sulawesi et l'Indonésie a demandé à la Malaisie d'inaugurer PTSB. Pour les frontières terrestres, l'Indonésie a apprécié la signature du 20e protocole d'accord, la démarche conjointe et la sondage sur la frontière internationale Indonésie-Malaisie. Les deux pays sont d'accord pour résoudre les problèmes liés aux frontières dans les régions du nord et de l'ouest de Kalimantan. Les deux pays ont convenu d'accroître les coopérations dans le domaine du placement et de la protection de l'emploi par le renouvellement du protocole d'attente. Les deux pays établiront la nouvelle coopération dans le domaine des palmiers à l'huile. C'est une nouvelle coopération stratégique parce que les deux pays sont les grands producteurs de palmiers à huile dans le monde. L'Indonésie augmente toujours une coopération avec Singapour dans divers secteurs. Cela a été transmis par le ministre indonésien de l'Industrie, Erlang Hartarto, dans son discours lors de la célébration de la 52e journée nationale de Singapour à Jakarta récemment. Dans son discours, le ministre Erlang a déclaré que Singapour et l'Indonésie coopéraient pendant 50 ans pour maintenir la sécurité et la stabilité régionale. La ministre Erlang a souhaité que les deux pays puissent maintenir et accroître la coopération dans le cadre bilatéral, régional et multilatéral.
As both countries continue to work closely in bilateral, regional and multilateral framework.
Les deux pays continuent de collaborer dans un cadre bilatéral, régional et multilatéral. Nous réalisons beaucoup de choses dans les 50 ans de nos relations diplomatiques. Je suis convaincu que nous serons en mesure de faire face aux nouveaux défis, d'utiliser un nouveau potentiel pour notre bénéfice mutuel. J'ai confirmé de nouveau l'engagement de l'Indonésie à renforcer nos liens d'amitié dans la coopération à réaliser l'économie potentielle complète. Je suis également prêt de collaborer avec Singapour afin de faire progresser notre programme bilatéral et de poursuivre notre intérêt commun à l'échelle régionale et multilatérale. Le ministre Erlang a également déclaré que l'Indonésie et Singapour continuent d'accroître la coopération dans divers secteurs, tels que le commerce, l'économie et la cybersécurité. Auparavant, diverses activités ont été organisées pour célébrer les 50 ans des coopérations bilatérales de l'Indonésie et Singapour. L'un des ordres du jour à venir est la visite du président Joko Widodo à Singapour à la réunion des dirigeants inter-États. La coopération bilatérale entre l'Indonésie et la Corée du Sud continue d'augmenter considérablement. Les deux pays ont une coopération concrète dans l'économie, le tourisme, la culture et la défense. Il a été dit par l'ambassadeur sud-coréen en Indonésie, Cho Tae-yong, lors de l'interview spéciale avec la voix d'Indonésie à l'ambassade de Corée du Sud à Jakarta récemment. Il a déclaré que la coopération en matière de défense des deux pays connaît des progrès rapides et apporte un bénéfice mutuel aux deux pays.
Defense is in this area. Korea and Indonesia have shown excellent cooperation.
La coopération dans le domaine de la défense entre la Corée du Sud et l'Indonésie ont montré une excellente coopération. Pour la Corée du Sud, l'Indonésie est le plus grand marché et aussi nous avons acheté beaucoup d'équipements militaires de l'Indonésie, comme des avions, des transports militaires qu'actuellement nous les utilisons toujours. Vous avez acheté notre avion, des combattants, il y avait la formation pour des pilotes et l'Indonésie a acheté aussi un sous-marin. En outre, Cho Tae-yong a également déclaré que l'Indonésie et la Corée du Sud avaient prévu une coopération en matière de défense en créant des avions à réaction KFX et IFX. Les avions à réaction moderne seront construits conjointement par les deux pays pour soutenir le système d'armement principal. Le gouverneur de Bali, Made Mangkupasika, sera l'un des conférenciers du Forum mondial de la démocratie Hindu, WADF 2018, qui se tient à Chicago aux États-Unis le septembre 2018. Le secrétaire général du Visva Hindu Parishad ou VHP, Swami Vigyananan, lors de la rencontre Pastika Denpas récemment, a dit qu'il y avait 16 choses qui seront discutées lors d'une réunion mondiale comme l'éducation, les médias, l'économie, la politique et aussi la culture. Selon Swami Vigyananan, lors de WWADF 2018, on espère de faire la base et d'approfondir la coopération entre les hindous dans le monde entier. Swami a ajouté que cette partie voulait inviter les jeunes hindous pour discuter des problèmes qui existent aujourd'hui dans de nombreux pays. Le Forum mondial de la démocratie en Dieu 2018 sera assisté de plusieurs chefs d'État, les premiers ministres, les gouverneurs de différentes régions du monde. Le dernier, le ministre indonésien du commerce étudie la possibilité de coopérer commercialement avec les pays de la région eurasiatique comme la Russie, la Biélorussie, l'Arménie, le Kazakhstan et le Kyrgyzstan. L'accord de coopération commencera après la signature d'un protocole d'accord à la fin de cette année avec une valeur estimée des exportations indonésiennes vers l'Eurasie qui atteint 5 milliards de dollars de 2019 au 2020. Le ministre du Commerce, Enggar Tias Tolukita, a dit à Jakarta que le plan était conforme aux ordres du président Joko Widodo qui a demandé que l'Indonésie ouvrait de nouveaux marchés d'exportation afin d'augmenter la valeur des exportations. Il y a plusieurs produits d'exportation potentiels pour l'Eurasie, comme la mode musulmane, les produits de vêtements et les fruits tropicaux. C'est sur l'Itauditis, c'était le journaux aujourd'hui. À demain.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la revue de presse. Nous commençons avec l'éditorial du journal Compass le 11 août ayant pour titre « Un message de tolérance de Yogyakarta ». Un message de tolérance, c'est le message le plus important de la journée de la jeunesse asiatique 2017 du 2 au 6 août 2017 à Yogyakarta. Le rassemblement des jeunes qui était suivi par environ 2000 jeunes catholiques de 22 pays d'Asie et avait pour thème joyeux jeunesse d'Asie, vivre l'évangile dans l'Asie multiculturelle a été lancé depuis le 30 juillet 2017. L'événement à Yogyakarta est le point culminant de leur rencontre avec le peuple indonésien à partir d'un certain nombre de superficies de 11 diocèses. C'est la 7e réunion annuelle, la première fois en Indonésie, précédemment dans un certain nombre d'autres pays d'Asie. Ils vivent ensemble dans les familles non catholiques, accompagnés par les jeunes de l'islam. Seulement quelques jours, mais ils ont témoigné de la diversité de la société indonésienne, l'une des conditions de vie en harmonie dans la situation de la diversité et la tolérance, respecter des droits individuels. Le dernier message qui a été remis lors de la cérémonie de clôture qui a été assistée par le vice-président Yusuf Kalla, 7 août, suggérer de vivre ensemble en harmonie, mutuellement tolérant et respectueux. Les pays d'Asie est une représentation de la diversité qui devient une force. Un message de tolérance des jeunes d'Asie est devenu le déclencheur pour nous de construire une vie tolérante. La protection et l'application de la loi, aussi bien l'exemple des chefs religieux et l'élite politique, sans aucun doute, deviennent une référence pour réaliser le message de tolérance qui est éternel pour nous en Indonésie. Le dernier, l'éditorial du journal Sindo, le 10 août, a pour titre « contraint au transport de masse. La congestion du trafic à Jakarta est pire parce que beaucoup de constructions des infrastructures par le gouvernement en même temps. La région d'intersection Kuningan étant construit le passage souterrain depuis le début de l'année dernière a ajouté à la congestion dans la région de Mampang Prapatan et Warung Buncit. Alors qu'auparavant, dans ce quartier, il y a toujours les embouteillages. De plus, un nombre de médianes à la rue Rasuna Said est en cours de construction transport léger sur rail TLR qui prend une route. Par conséquent, la congestion dans la région Kuningan certainement empire. L'autre région qui est presque similaire est près de Kuningan est l'intersection Pancoran. La région était en cours de construction du pont routier et le développement accompagné dans la rue M.T. Haryono. Au quartier Matraman, il y a la congestion plus grave en raison de la construction de passages souterrains. Donc, aussi avec la construction du passage souterrain à Pondok Indah. La congestion à Pondok Indah empire parce qu'il y a encore la construction du transport rapide de masse MRT. Ces plaintes continueront de se produire jusqu'à prochain mois ou même plusieurs prochaines années. Parce que le projet de passage souterrain et pont aérien devrait être terminé plus tard cette année, alors que le nouveau train léger et MRT sera fonctionné en 2019. L'objectif de la construction des infrastructures ci-dessus est de briser la congestion à Jakarta. Les passages souterrains à Kuningan, Matraman et Pondok Indah vont dénouer la congestion à l'intersection. De même avec le pont aérien à Pancoran brisera la congestion à l'intersection alors que le transport léger sur rail et MRT et les efforts du gouvernement pour fournir le système de transport de masse qui est sûr et confortable. Le gouvernement espère qu'il y ait une mobilité de changement culturel des personnes de véhicules privés au transport en commun. Mais sans le savoir, avec la congestion dans certaines régions, le gouvernement oblige les gens à se déplacer en utilisant les transports de masse. À l'heure actuelle, deux transports en commun, à savoir la ligne de banlieue et Transjakarta, devient le choix des gens parce qu'il est pratique et sûr. Chers amis, c'était la revue de presse.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Ces auditeurs, la voix d'Indonésie à Jakarta, voici notre programme quotidien. Aujourd'hui, dans l'histoire de la voix d'Indonésie, l'édition le 12 août. On va commencer le 12 août 1949, la signature des conventions de Genève. Les conventions de Genève sont un traité qui délimite les formalités de protection des individus lors d'un conflit armé dans un pays. Ces règles sont valables tant pour les militaires que pour les prisonniers ou les civils. La toute première convention est signée en 1864, bien que les règles fixées actuellement soient postérieures à la Seconde Guerre mondiale. Les quatre principales remontent au 10 août 1949. Elles sont validées par tous les pays du monde, ce qui implique qu'elles doivent être respectées mondialement. On change le 10 août 1945, le Japon a promis à Sukarno et Hatta l'indépendance pour l'Indonésie. Le 10 août 1945, le Japon, par l'intermédiaire le maréchal Terauchi Adala au Vietnam, a déclaré à Sukarno, Hatta et Rajiman que le gouvernement japonais va bientôt accorder l'indépendance de l'Indonésie et la proclamation de l'indépendance peut être mise en œuvre dans quelques jours. Néanmoins, les Japonais voulaient l'indépendance de l'Indonésie le 24 août. Deux jours plus tard, lorsque Sukarno, Hatta et Rajiman ont retourné à la patrie de Dala, les jeunes ont insisté Sukarno à déclarer l'indépendance immédiatement, car il estime que le résultat de la réunion Adala comme une ruse du Japon. Enfin, après la négociation entre les groupes des jeunes et les groupes des vieillards, l'Indonésie a proclamé son indépendance le 10 août 1945. C'est arrivé face que plus tôt, le 9 août 1945, la deuxième bombe atomique larguée sur Nagasaki, provoquant les Japonais se sont rendus aux États-Unis et ses alliés. Ce moment a été profité l'Indonésie pour déclarer l'indépendance. On termine le 10 août 2000 l'accident du sous-marin Kursk. Le sous-marin nucléaire russe Kursk coule en mer de Barents au nord-ouest de la Russie avec 118 hommes d'équipage. Le gouvernement russe finira par l'accepter à des étrangers et le 21 août, des Shrapnelriers norvégiens descendront expédier la Kursk, qui gît à 108 mètres de fond. Mais il sera trop tard, il n'y aura pas de survivants. Aujourd'hui encore, la cause de cet accident reste inexpliquée. C'est un avance. L'hypothèse d'une collision avec un sous-marin américain présent dans la zone de ce moment-là. C'est sur l'autorité, c'était aujourd'hui dans l'histoire de la voix d'Indonésie, soit l'édition du chute. À demain.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la mise au point et en titre « Indonésie-Russie renforce le partenariat stratégique ». Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a effectué une visite en Indonésie et une rencontre bilatérale avec la ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi le mercredi à Jakarta. Divers efforts visant à renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays afin d'anticiper les évolutions du monde sont discutés à la réunion. Les deux ministres ont également signé des documents de coopération, plans de consultation entre le ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie et le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie pour l'année 2017-2019. L'arrivée de ministre Lavrov a également pour but de préparer la visite du président Vladimir Poutine en Indonésie. Lors d'une conférence de presse après la réunion, Retno Marsudi a déclaré que l'Indonésie et la Russie ont établi une coopération étroite dans le domaine de la sécurité, y compris dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Dans le domaine économique, l'Indonésie au cours des deux dernières années est active de faire une grande promotion de l'économie par l'intermédiaire du Festival d'Indonésie à Moscou pendant 3 jours. Les touristes russes qui viennent en Indonésie ont augmenté aussi rapidement. Par rapport à l'an 2015, la visite des touristes de la Russie en 2016 a augmenté 22,5%, tandis que dans les 5 premiers mois de cette année, il y a une augmentation plus de 62% par rapport à l'année dernière. La valeur du commerce entre l'Indonésie et la Russie en 2016 a atteint 2,1 milliards de dollars américains, soit une augmentation 6,33% par rapport à l'an 2015. Au cours des 5 premiers mois cette année, le commerce entre les deux pays a atteint 1,12 milliards de dollars américains, une augmentation 54,43% par rapport à la même période de l'an dernier, qui était 726 millions de dollars américains. À la même occasion, le ministre Sergei Lavrov a déclaré que son gouvernement ainsi qu'un nombre d'entreprises russes ont passé en revue les projets d'investissement à grande échelle qui sont mis en œuvre en Indonésie. Les plans d'investissement dans les projets de la Russie étaient discutés lors d'une réunion avec la ministre Retno Marsudi. En plus de la coopération économique et des affaires, les efforts de lutter contre le terrorisme devenaient l'un des principaux sujets des deux ministres, y compris des programmes spéciaux pour lutter contre les djihadistes membres de l'ISIS, donc les membres se sont répandus dans le monde entier. Aucun détail n'est mentionné sur la coopération spéciale. La question palestinienne et divers conflits au Moyen-Orient est également discutée. Le ministre Lavrov a expliqué que la Russie et l'Indonésie ont la même position pour résoudre le conflit en Syrie et en Irak, basé sur le droit international, respecté des normes et principes de la Charte des Nations Unies par le biais des négociations pour trouver un compromis et un consensus sans aucune ingérence étrangère. Lors de sa visite à Jakarta, Lavrov a également inauguré le représentant permanent de la Russie au prix de l'ASEAN. La réunion des deux ministres des Affaires étrangères était la troisième au cours des deux dernières années après l'an 2015 à Kuala Lumpur en Malaisie et l'an 2016 à Sochi en Russie. Chers amis, c'était la mise au point.
Des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Ce soir, nous vous introduisons la plage Buana à Nusa Tenggara Est. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix d'Indonésie. L'Indonésie est vraiment très large, beaucoup de belles plages ici. L'un d'entre eux, la plage Buana à Sumba Sud-Ouest, Nusa Tenggara Est. Cette plage est célèbre pour la beauté extraordinaire de ce que les touristes étrangers l'appellent le paradis caché. Belle et étonnante, c'est approprié pour illustrer la beauté des paysages à la plage Buana. La côte Buana, qui est souvent appelée par les habitants avec la plage Bana, en plus de bien connue pour sa beauté, aussi bien connue en raison de son caractère unique. Ici, il y a des falaises hautes que le centre a un grand trou, dont il semble comme une porte très grande et belle. En voyant cette scène, c'est comme on entre les portes du Nirvana. Ce trou n'est pas d'origine humaine, mais il se produit naturellement, le processus d'érosion des falaises par les vagues. Cette plage est parfaite pour les amateurs de surf et les amateurs de l'escalade. Le bruit des vagues sur la plage Buana est assez grand. Il est donc approprié pour les surfeurs. En outre, les plages sont très propres et ont le sable lisse et blanc. Pour les voyageurs qui ont un passe-temps de prendre des photos, la plage Buana, qui a l'eau claire et la mer bleue, est un beau endroit parce que cette plage a beaucoup de beaux endroits qui peuvent être perpétués. Pour ceux d'entre vous qui n'aiment pas le surf, vous pouvez nager ou tout simplement faire une promenade sur la plage tout en profitant de la beauté et le caractère unique de la plage Buana. L'accès pour aller à la plage Buana, qui est située au district Kodi Balagar, en région Sumba Sud-Ouest, en province Nusa Tenggara Est, n'est pas trop difficile. De Tambolaka, capitale de la région Sumba Sud-Ouest, il faut environ 2 heures. Pour profiter de la beauté de la plage Buana, il faut encore passer par une route très difficile de descente. En cas d'utilisation des véhicules à 2 roues, la distance qui sera parcourue est seulement 500 mètres. Mais si on marche, la distance pour se rendre à la plage Buana est environ 2 km. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Au revoir.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers auditeurs du TIS, écoutons le programme L'Indonésien couleur. On va commencer maintenant avec le titre Nur Aini, la première femme de la force aérienne d'Indonésie qui a volé l'avion Trik. Bonsoir à tous, nous continuons notre mission avec l'Indonésie en couleur. Aujourd'hui, le 10 août, l'Indonésie célèbre la journée de l'Air Force des femmes, soit WARA, dont ce soit l'Indonésie en couleur présent Nur Aini, la première femme de la force aérienne d'Indonésie qui a volé l'avion Trik. WARA a été formée le 10 août 1962. WARA est la destination pour les soldats femelles de la force aérienne d'Indonésie. L'objectif de la formation de WARA est pour que les femmes puissent devenir membres de la force aérienne similaire aux hommes. Au début de la création, WARA a gagné la confiance de service dans le domaine de l'administration ou d'être professeur de langue. Après quelques années, les femmes de la force aérienne étant en mesure de démontrer une plus grande capacité. Les tâches liées au vol ont commencé à entrer, par exemple participer à réglementaire, le vol dans le tour du contrôle du trafic aérien. Depuis lors, WARA continue de croître par effectuer plus maladroit des tâches normalement exécutées par des soldats de sexe masculin. L'une d'entre elles est le sergent Nur Aini. La femme née à Kupang, Nusa Tenggara Est, il y a 24 ans, est la première femme membre de la force aérienne d'Indonésie qui est capable de voler l'avion le type ultra-léger Trik. Selon Nur Aini, après avoir suivi la sélection avec environ 20 autres personnes à se joindre à l'école pilote de Trik, elle passait à être la seule femme. Nur Aini suit alors une étude pilote pour un mois à Bogor, Java West. Au cours, elle obtient 20 heures de voler dans l'avion de Trik. Au bout de 20 heures de vol avec l'entraîneur, Aini a passé et autorisé à voler en solo. L'avion léger de type Trika est un avion léger, ultra-léger, modification de delta plan qui équipasse des machines. Dans certains pays développés, la fonction de Trika est développée d'être l'avion pour la fertilisation des terres agricoles, la surveillance, la circulation et le patrouille forestière, la photographie aérienne, ainsi que des outils de promotion tels que tirer des banniers ou distribuer des dépliants au public. Ainsi, j'espère que toutes les femmes puissent aller de l'avant et sans peur dans la poursuite des idéaux et une carrière comme un homme. Toutefois, ne laissez pas passer de son rôle en tant que femme dans la famille. Je n'ai jamais cité l'Indonésien couleur ce soir, mais c'est d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers auditeurs, on vous présente maintenant le programme musical de la voix d'Indonésie diffusée à Jakarta avec moi, Yubi Suryanto. Ce soir, nous vous présentons une musique en nuance de la nationalité ou héroïque indonésienne des chanteurs ou les musiciens indonésiens. On écoute la première chanson intitulée « Être une légende » chantée par un groupe de musique « Superman is Dead ».
merah putih untuk Indonesia. Kita punya semua, seribu budaya dan kekayaan alam yang takkan terkalahkan. Untuk Indonesia, jadilah legenda, kita bisa dan percaya. Darah
ce solitaire, c'était une chanson intitulée « Être une légende » chantée par un groupe de Superman Estet. Ce groupe, qui est provenance de l'île Bali, s'habitue de créer les chansons pleines de critiques sociales et politiques et puis contre la suppression. Mais en 2013, Superman Estet, ou plus connu avec le surnom SID, a composé les chansons en nuances différentes dans la brume de la coucher du soleil dans ma patrie. La chanson « Être une légende » que vous avez écoutée tout à l'heure rappelait si riche de l'Indonésie sur la nature et la culture. D'autre part, SID a invité toutes les nations indonésiennes de lutter toujours pour le pays unitaire de l'Indonésie. Un autre groupe de rock qui a également une chanson héroïque est 21st Night. Se dirige vers Yogi, Aryo et Fiki. 21st Night a publié une chanson intitulée L'Indonésie pour toujours, dans l'album intitulé Dream of Yacht en 2011. La chanson Indonésie pour toujours décrit l'Indonésie en tant que pays qui est non seulement indépendant mais aussi très beau et plein d'amour. À travers les paroles, 21st Night invite les auditeurs à aimer mon pays natal et introduire l'Indonésie au monde. Ses amis, on écoute la chanson de 21st Night intitulée L'Indonésie pour toujours.
Di sini rumah kita yang terindah di dunia. Oh, tanah. Indonesia.
Chers auditeurs, c'était une chanson intitulée L'Indonésie pour toujours, chantée par le groupe de The Music 21st Night. La prochaine chanson intitulée Être indonésien, chantée par un groupe de Four Guérons. C'est la chanson nationale et les paroles qui donnent un esprit d'honneur, mais la chanson Être indonésien de Four Guérons a la tendance à être critique. Avec des paroles simples, être indonésien pour rappeler aux gens de l'Indonésie pour éliminer la jalousie et l'envie de l'âme et rebondir pour devenir pleinement l'Indonésie. Chers auditeurs, on termine notre programme musical avec la chanson Être indonésien chantée par le groupe Four Guérons. Bonne écoute et au revoir.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15150, 9525 et 11785 kHz. le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.